Bienvenue sur Numar. Numar, c'est le podcast de l'art au temps du digital. Nous interviewons des personnalités influentes du monde de l'art qui nous donnent leur vision du numérique dans l'art.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Jessica Swady, qui est une artiste et la spécialiste des NFT. Elle arrive comme personne à rendre les NFT accessibles au plus grand nombre. Écoutez-la, je pense que comme moi, vous allez être conquis.
Bonjour Jessica, peux-tu s'il te plaît te présenter ?
Bonjour Clémence, déjà merci de m'avoir invitée à ton podcast. Donc moi c'est Jessica, je suis artiste et aussi entrepreneuse dans le monde de l'art et j'habite en Finlande, à Helsinki. En fait, j'ai commencé mes études en France en tant qu'artiste. Du coup, j'ai fait les arts déco de Strasbourg dans l'atelier peinture de Daniel Schlier. Et puis ensuite, j'ai travaillé en tant qu'artiste pendant 3 ans. Donc, j'ai été invitée à faire des résidences d'artistes à l'international, donc en Chine, à Shanghai, à Singapour. Et j'ai participé à pas mal d'expositions de groupe à l'international. Et puis, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est très compliqué pour les artistes de vivre de leur art. Donc, j'ai décidé de créer ma propre start-up qui est aujourd'hui Art From Future.
OK, génial. Et c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Parce que tu fais souvent des masterclass et j'ai assisté à une de tes masterclass qui est très enrichissante et qui m'a appris plein de choses et qui m'a donné envie de m'y mettre. Donc, merci et bravo. Parce que je trouve que tu parles des cryptos et des NFT de manière très accessible. Et en fait, du coup, ça donne envie de faire le grand saut. Est-ce que tu peux nous dire toutes les étapes d'achat de crypto, c'est-à-dire sur quelle plateforme et comment on fait pour transférer des euros ou de la monnaie en crypto ?
Ouais, déjà, tu as raison de dire que j'en parle assez, d'une façon assez accessible parce que c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que le contenu, en tout cas, qu'il y avait sur, ou qu'il y a toujours en fait, sur Internet, c'est un contenu qui est assez technique et qui n'est pas accessible pour tous. Et du coup, j'ai décidé d'essayer de commencer à créer du contenu pour éduquer les gens et essayer de les ramener dans le milieu des NFT. Et du coup, c'est assez simple, finalement, quand on sait comment faire. Mais il y a, disons que... Il y a pour commencer à acheter un NFT, il nous faut 3 choses. Donc, il nous faut une application pour acheter de la crypto-monnaie, parce que sans crypto-monnaie, on ne peut pas acheter de NFT, ou on peut parfois passer... Il y a bien sûr des marketplaces, je pense, qui donnent possible l'achat par carte bleue. Mais sinon, en général, il faut acheter de la crypto. Ensuite, il va falloir transférer cette crypto sur un portefeuille numérique crypto, du coup. Et ensuite, on pourra acheter les NFT qu'on veut sur différentes blockchains. Mais du coup, moi, ce que je conseille pour les débutants, c'est de télécharger l'application Coinbase parce que c'est une application qui est très simple d'utilisation. Le seul bémol, c'est que les frais de... Enfin, les commissions sont un peu plus grandes que, par exemple, d'autres applications comme Binance. Mais Binance, c'est assez complexe. Donc, au début, je pense que personne n'a vraiment besoin d'utiliser Binance. Et du coup, il me semble que sur Coinbase, si on achète de la crypto en dessous de 100 euros, je crois que la commission, c'est 1,99 €. Donc, ça va, quoi. C'est pas énorme. Et du coup, il suffit d'aller sur Coinbase, il faut se créer un compte. Ils vont vous demander en fait, de fournir des documents qui prouvent bien votre identité parce qu'il faut que ce soit bien sécurisé. Et ça prend un peu de temps. Ça peut prendre entre quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours. Et ensuite, après ça, il faut choisir en fait, la crypto qu'on veut acheter. Donc, ça peut être de l'Ethereum, du Tezos. Et on en achète pour autant qu'on veut. Donc, ça peut être 100 euros, 30 euros, 20 euros. Et ensuite, dès qu'on l'a acheté, on télécharge un portefeuille numérique. Donc, le portefeuille numérique crypto, ça sert à stocker ces NFT. Donc, si c'est sur Ethereum, ça va être un MetaMask. Et si c'est sur Tezos, ça va être le portefeuille soit Kucai, soit Temple. Je crois qu'il y en a d'autres, mais moi, j'utilise Kucai, par exemple. Et donc, on va retourner sur notre application Coinbase. On va transférer, en fait, cette crypto sur notre portefeuille numérique. Et ensuite, on est parti pour commencer à acheter nos NFT.
Tu parles de Tezos et Ethereum. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre les deux ?
Ouais, bah déjà, c'est déjà deux cryptos différentes. Et en fait, dans les NFT, il y a plusieurs blockchains. La plus utilisée, c'est Ethereum. Et maintenant, il y a une blockchain que beaucoup, beaucoup d'artistes utilisent. C'est la blockchain Tezos. Et je crois que c'est une blockchain qui a été cofondée par un Français ou deux Français. Et en fait, la différence, c'est qu'elle se base sur deux mécanismes différents. Donc, la blockchain Ethereum va se baser sur un mécanisme de proof of work et la blockchain Tezos sur un mécanisme de proof of stake. Le proof of work, c'est un mécanisme qui est à peu près le même que Bitcoin. En fait, pour valider les transactions sur la blockchain, les mineurs vont devoir avoir chez eux des machines ultra puissantes pour valider des codes mathématiques qui sont très, très puissants. Et du coup, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, quand on va acheter des NFT sur la blockchain Ethereum, on va devoir payer beaucoup de frais de transaction, de frais de gaz, en fait, ça s'appelle dans le monde des NFT. Et ces frais peuvent s'élever à entre, ça dépend en fait des jours et à quelle heure on achète le NFT, mais c'est entre, je dirais, 20 euros et parfois ça peut aller à 200 euros et parfois beaucoup plus. Donc, imaginons que la personne va acheter un NFT qui coûte 200 euros, il va falloir penser qu'il va falloir rajouter ses frais de transaction par-dessus qui sont en général quand même assez chers. Donc, l'œuvre au final coûtera peut-être 250, 300, 350 euros. Ensuite, Tezos, c'est basé sur un mécanisme de proof of stake, c'est-à-dire que pour valider les transactions sur la blockchain, les personnes qui valident vont être tirées au sort. Donc, c'est la personne qui a le plus de Tezos qui pourra valider les transactions. Du coup, c'est une blockchain qui dépense beaucoup moins d'énergie. Et pour vous donner une idée, je crois que minter, donc mettre sur la blockchain un NFT, ça équivaut à faire un tweet. Donc, ça va quoi. Et donc, vu que ça utilise peu d'énergie, il y aura beaucoup moins de frais de gaz. Donc, en tant que collectionneur ou collectionneuse, si vous achetez un NFT sur Tezos, les frais de gaz, en général, c'est entre 20 centimes, 50 centimes. Enfin, c'est vraiment rien du tout.
Peux-tu nous parler justement du vocabulaire ? Tu l'as un peu décrit, mais qu'est-ce que c'est que minter ? Qu'est-ce que c'est que burner ?
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce petit lexique qu'il faut un peu connaître quand on commence dans les NFT. Et déjà, minter, ça veut dire mettre une œuvre sur la blockchain. Et en fait, c'est un peu faire une transaction. Parce qu'en tant que collectionneur, on peut dire j'ai minté une œuvre, je l'ai achetée, mais du coup, j'ai fait une transaction sur la blockchain. Ensuite, burner, c'est quand on veut, entre guillemets, retirer une œuvre de la blockchain. En fait, on va la brûler. On peut pas la... En fait, ce n'est pas comme sur un marketplace dans le Web 2 où on peut tout simplement retirer une image, etc. Là, on va devoir carrément brûler, le NFT, mais la transaction, en fait, restera apparente sur la blockchain pour toujours, de toute façon. Après, il y a les gaz, donc ça, c'est les frais de transaction. Et sinon, je pense que c'est un peu les plus importants.
Moi, c'est les seuls que je connais, en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des prérequis pour acheter un NFT, s'il te plaît ?
Pas forcément. Enfin, je veux dire, à partir du moment où la personne a un téléphone, accès à de l'Internet, à un ordi, etc., en général, ça suffit. Et après, je pense qu'il faut, il faut juste tester. Je pense que ça peut paraître compliqué au début quand on se dit il faut télécharger Coinbase, il faut acheter de la crypto et tout, ça m'a l'air compliqué. En fait, une fois qu'on a fait le processus, ça devient un mécanisme, en fait, comme quand on apprend à conduire. Donc, Il n'y a pas vraiment de difficulté. Je pense que la difficulté, c'est de s'y mettre, tout simplement. Mais voilà, si on a un peu d'argent de côté, par exemple, même 50 euros, ça suffit pour se lancer parce qu'on n'est pas obligé d'aller commencer à acheter sur Ethereum et avoir, je ne sais pas, 500 euros de crypto. On peut commencer avec 50, voire 20 euros sur la blockchain Tezos, ça suffit largement. Et on peut collectionner déjà plein, plein d'œuvres d'art, quoi.
Ok, et donc toi en tant qu'artiste, et moi je connais ta collection, je suis allée la voir plusieurs fois et je viens d'y retourner aussi, mais pour quelqu'un qui ne te connaît pas du tout et qui ne connaît pas du tout ce que tu fais, comment je peux acheter tes NFT?
Ouais, donc moi, en tant qu'artiste, déjà, mon nom d'artiste, c'est Jessie Jean. Voilà, donc je ne m'appelle pas Jessica Swedy. Donc, si on me cherche sur Twitter avec ce nom-là, on ne me trouvera pas. Et moi, je mint surtout sur Tezos. J'ai aussi quelques œuvres sur Ethereum. Mais du coup, si on veut trouver mon travail, le mieux, c'est d'aller sur Twitter déjà, de chercher mon nom, Jessie. Donc, ça s'écrit J. En majuscule, ensuite Jessie avec un Y tiré en bas, Jean, J avec une majuscule, EA2NE. Je pense qu'on pourra le mettre dans le format écrit. Et ensuite, j'ai un Linktree et on peut trouver mes profils sur les marketplaces Objects.com, TIA.art et OpenSea, bien sûr, pour les NFT sur Ethereum. Donc, il suffit d'avoir installé son wallet crypto, d'avoir acheté du Tezos, etc. Et puis ensuite, on peut me trouver via ces liens-là et on peut acheter en fait mon travail sur ces marketplaces.
Ok. Oui, évidemment, bien sûr, toutes les informations seront par écrit dans l'épisode. Toi qui t'y connais beaucoup en NFT, est-ce que tu peux nous parler de ceux qui sont les plus connus
Ouais, en fait, plusieurs collections qui sont toujours un peu les plus connues, qui sont les top 4 ou 5. Et malheureusement, c'est toujours des collections qui ont été créées par des hommes. Mais bon, j'espère que ça va changer. Mais oui, effectivement, il y a la collection des Bored Ape qui reste vraiment la vraiment plus connue. Donc, c'est Profile Picture qui ressemble à des singes. Qui a vraiment cartonné, qui se vend toujours vraiment très très bien et qui en fait maintenant s'achète entre célébrités parce que pour pouvoir se payer un Bored Ape, faut vraiment avoir beaucoup d'argent ou alors se mettre en groupe et l'acheter en commun. Et du coup, c'est aussi, enfin, je pense que c'est aussi une collection qui a commencé, qui n'était pas forcément faite pour les gens qui sont riches. Mais maintenant, c'est une collection qui est faite pour les gens riches et aussi, ils organisent des événements sur des yachts, etc. Donc, les détenteurs du NFT, en fait, peuvent avoir accès à ces super soirées, méga luxueuses. Et après, bien sûr, il y a les CryptoPunks qui ont été créés déjà en 2017 sur la blockchain Ethereum. Donc, ça, c'est des petites profile pictures qui ressemblent à des petits punks qui sont assez marrants. Et puis, il y a aussi les doodles. C'est des profile pictures aussi qui sont très, très colorés. Et pour changer des profile pictures, il y a aussi Artblocks. Donc, Artblocks, c'est des NFT. En fait, c'est des œuvres d'art génératives qui marchent très, très bien. Et aussi, sinon, pour donner un exemple plutôt avec une équipe de femmes, donc il y a World of Women, qui n'est pas dans les top top, mais qui est quand même une des, enfin, qui est là, je pense, la plus grande collection de profile picture qui a été créée par une équipe de femmes qui a vachement cartonné et elles ont fait leur second drop il n'y a pas très longtemps. J'ai pas pu en acheter un malheureusement, mais voilà pour les NFT les plus connus. Pour l'instant, ça reste quand même des profile picture. Donc les profile picture, en fait, c'est des NFT qui ressemblent à des photos de profil. Et en fait, les gens les utilisent beaucoup pour les mettre sur leurs réseaux sociaux, surtout sur Twitter, pour montrer en fait qu'ils font partie de la communauté. Parce qu'il faut savoir que les NFT, c'est un monde très communautaire. En fait, on aime bien montrer qu'on fait partie d'une communauté dans les NFT.
J'avais déjà appris beaucoup de choses dans ta masterclass et en fait, ouais, je trouve que, enfin, je pense que les auditeurs vont beaucoup apprécier parce que tu en parles comme si c'était hyper concret. En tant qu'artiste, est-ce que tu peux nous dire, enfin, qu'est-ce que tu penses des NFT? Est-ce que tu penses que c'est une spéculation ou une véritable opportunité?
Oui, je pense que en fait, il y a les deux. Il y a, on va pas se mentir, enfin, il y a aussi le côté de la spéculation qui est un peu trop mis en avant, je trouve, dans les médias, parce qu'on parle que de ça. Alors qu'en fait, il y a tout le reste, enfin, il y a tout un monde des NFT qui est très artistique. Et en fait, je pense que déjà, si on s'adresse à des artistes, je pense qu'il faut comprendre que les NFT, c'est une technologie. Donc, il faut le voir comme quand on a inventé la photographie, c'était une nouvelle technologie. Quand on a commencé à peindre avec, je sais pas, de l'acrylique, c'était une nouvelle technologie. Les iPads avec tout, enfin, Procreate, etc. Enfin, c'est des nouvelles technologies qui permettent en fait de faire quelque chose de nouveau. Et donc, les NFT, en fait, je trouve que pour les artistes, c'est une réelle opportunité. Parce que ça permet en fait de devenir beaucoup plus indépendant que dans le monde de l'art traditionnel. Parce que dans le monde de l'art traditionnel, on doit passer en général par des intermédiaires qui prennent des grosses commissions. Et en fait, ce n'est pas tant la commission, je pense, qui est le réel problème, c'est d'attendre d'être validé par ces intermédiaires pour pouvoir vendre son travail, pour pouvoir avoir accès à des collectionneurs. Bien que, oui, les artistes peuvent passer, enfin, faire leur promotion sur Instagram, etc., vendre directement à des collectionneurs, mais en fait, la réelle révolution avec les NFT, c'est que ça permet aux collectionneurs aussi de prouver qu'ils sont vraiment détenteurs de cette œuvre d'art digitale. Ils peuvent la revendre, mais aussi les artistes peuvent toucher des royalties automatiquement. Et ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte parce que ça n'existait vraiment pas il y a, je sais pas, 1 an et demi, quoi. Enfin, c'est hyper évolutionnaire. Et cette proximité, en fait, que l'artiste a avec les collectionneurs, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti dans le monde de l'art traditionnel, en fait. Parce que il suffit de mettre ses œuvres sur la blockchain, de savoir quand même communiquer autour et d'avoir en fait les collectionneurs qui achètent. L'achat se fait automatiquement, donc il n'y a aussi pas le problème de logistique. On ne va pas penser au problème de TVA si on vend en ligne, etc. La vente se fait automatiquement, le smart contract est généré automatiquement. Et ensuite, en général, les collectionneurs essayent aussi de vous retrouver pour les artistes en ligne sur Twitter. Et ils vous envoient des messages, et ils deviennent en fait mécènes, ils vous aident en fait à vendre votre travail, à être visible, etc. Et je trouve que ça a créé un écosystème qui est beaucoup, beaucoup plus juste pour les artistes. Et moi, j'encourage vraiment tous les artistes à commencer à tester maintenant parce que les NFT, c'est une technologie qui va révolutionner en fait toutes les industries. On est au début, mais je pense que dans quelques années, ça va être une norme en fait. D'utiliser cette technologie. Et donc, en fait, si on ne l'utilise pas maintenant, dans 3 ans, on va être vraiment à la ramasse, quoi.
C'est vrai. Et justement, tu parles des royalties pour les artistes. Est-ce que tu peux expliquer comment ils les touchent, qu'en vendant son NFT, en fait, il reçoit à chaque fois une commission? Enfin, à chaque fois ou pas, d'ailleurs, je
Ouais,
sais.
alors en général, sur les marketplaces, quand on met une œuvre à la vente, on a l'option de mettre des royalties. Donc après, c'est différent sur chaque marketplace. Donc par exemple, sur Tezos, sur Objects.com, l'artiste peut choisir de recevoir en fait entre 0 à 25% de royalties sur chaque vente sur le second marché. Donc ça ne sera pas sur la première vente, mais quand un collectionneur revend une œuvre d'un artiste, et l'artiste peut toucher des royalties. Et du coup, ça se fait automatiquement. Voilà. Après, je sais que sur Ethereum, par exemple, je pense que sur OpenSea, les royalties peuvent pas dépasser, je crois, les 10%.
Là, on parle du monde virtuel. Est-ce que tu peux nous donner des solutions pour qu'on puisse voir les œuvres qu'on a achetées dans le monde réel?
OK, donc. Tu veux dire que quand on achète une œuvre d'art numérique, comment est-ce qu'on pourrait la voir chez nous, c'est ça?
Exactement, c'est ça. Par exemple, avec les tableaux connectés, avec les impressions.
Ouais, il y a effectivement des tableaux connectés qui existent. Par contre, je crois qu'ils sont les grands tableaux, enfin, ils ressemblent à qui ont la taille d'une d'une bonne œuvre, bah, en général, ils sont assez chers. Je crois qu'il faut compter quand même 3 000 euros pour ce type de tableau connecté. Sinon, après, il existe des espèces de petits cadres qu'on peut brancher. Et du coup, on peut mettre son NFT. Ça, c'est plus abordable. Et aussi, il y a la possibilité parfois d'imprimer le NFT. Donc, il faut bien regarder si l'artiste donne les droits au collectionneur de pouvoir en faire ce qu'il veut. Et sinon, il y a aussi des artistes en fait, qui proposent, dès l'achat de leur œuvre numérique, les artistes en fait, vont envoyer l'œuvre physique chez les collectionneurs. Mais après, il faut savoir qu'en général, dans le milieu des NFT, les collectionneurs, en général, ne veulent pas recevoir de quoi que ce soit chez eux, justement parce qu'ils veulent garder l'anonymat, etc. Et parce que le côté physique les intéresse moins. Mais c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup posée par les personnes en fait, qui viennent du monde de l'art traditionnel et qui se demandent en fait, comment elles pourraient, tout simplement, c'est ça, exposer les œuvres qu'elles ont achetées chez elles. Donc, en fait, le meilleur moyen, je pense, c'est soit même, en fait, même de les mettre sur votre télé, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de souci à faire ça.
Ok, merci. On sort des NFT, on va plus du côté des métaverses. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'intéresses ou pas?
Oui, carrément. Déjà, les métaverses, je pense que ça, c'est vraiment le futur. Et je dis le futur parce que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais j'ai l'impression, en tout cas, pour les œuvres d'art, je trouve que ce n'est pas encore très au point. En fait, il y a des exemples de métaverses que j'aime beaucoup, qui sont gratuites. Donc, ça va être par exemple oncyber.io. C'est un site internet qui propose aux collectionneurs de NFT ou même aux artistes. Donc, il faut avoir bien sûr un wallet crypto avec des NFT dedans pour pouvoir l'utiliser, qui propose en fait des métaverses pour exposer leurs œuvres qu'ils ont achetées ou qu'ils ont créées. Et en fait, il y a quelques espaces qui sont gratuits. Il y en a d'autres qui sont payants. Après, je crois qu'on peut louer des espaces, etc. Mais il y en a qui sont gratuits. Et ça, par contre, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. La qualité est super. Et en fait, par exemple, moi, j'ai déjà créé mes propres expositions dans ces métaverses-là, avec des œuvres que j'ai achetées. Et ensuite, par exemple, je l'ai partagé sur Twitter et n'importe qui peut rentrer dedans, en fait. C'est accessible à tous gratuitement. Et ça, c'est vachement sympa. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas rentrer dedans avec des avatars. Voilà, comparé à, par exemple, The Sandbox ou Decentraland, où on a des avatars et on peut vraiment rentrer dans la métaverse. Mais je trouve que pour l'instant, The Sandbox et Decentraland, je trouve que ce n'est pas encore très, très au point. Mais je pense que ça va bien se développer cette année. Et je pense honnêtement que ça va être le futur, en tout cas pour le milieu de l'art, parce que je pense que les artistes vont créer beaucoup plus d'œuvres pour la métaverse et que les gens vont passer beaucoup plus de temps du coup dans les métaverses et qu'ils vont faire leur shopping œuvres d'art dans les métaverses et qu'ils vont aussi recevoir en fait l'œuvre numérique et l'œuvre physique. Je pense que le digital, ça va aussi être quelque chose d'assez important dans les années à venir.
Ok, et est-ce que pour rentrer dans la métaverse dont tu as parlé, on a besoin juste d'un lien, on a besoin d'un casque? De quoi a-t-on besoin?
Ouais, non, alors pour la métaverse oncyber.io, il n'y a pas besoin de casque, il y a juste besoin du lien. Et après, n'importe qui peut rentrer dedans. Je pense que pour regarder en tant que visiteur, il n'y a même pas besoin d'avoir un wallet.
Je sais que tu fais des coachings. Comment fait-on pour s'inscrire à ces coachings et de quoi parles-tu quand tu coaches?
Ouais, exactement. En fait, j'ai commencé les coachings en décembre 2021. Justement, quand j'ai remarqué que il y avait beaucoup d'artistes, de galeries, de créateurs de contenu, etc., qui s'intéressaient aux NFT, mais qui ne savaient pas du tout comment commencer. Et vu que moi, j'avais testé pendant toute une année, je me suis dit que j'allais apporter mes connaissances aux autres personnes, justement pour les aider à rentrer dans l'univers des NFT. Et en fait, j'ai, Il y a deux offres. Donc, il y a une première offre pour les personnes qui souhaitent commencer un projet dans les NFT, que ce soit des artistes, des collectionneurs, des institutions culturelles, des créateurs de contenu, mais qui ne savent pas du tout comment faire. Du coup, c'est une offre qui est un peu moins chère que la deuxième, qui est pour l'instant encore en pré-sale à 45 euros. Donc là, c'est un call de 45 minutes avec moi via Google Meet. Et en fait, je demande toujours à la personne de me présenter son projet en amont pour que je puisse faire des recherches et que je puisse la guider durant ces 45 minutes. Et s'il y a besoin de plus d'accompagnement, il y a des follow-up de 40 minutes sur un point particulier qui sont un peu moins chers, du coup, à 35 euros pour l'instant. Et sinon, il y a une deuxième offre. Et cette offre, c'est vraiment pour les personnes, donc pareil, les artistes, les institutions, les créateurs de contenu qui ont déjà commencé leur projet NFT, mais qui sont complètement bloqués, qui n'arrivent pas à vendre. Ça fait, par exemple, je sais pas, deux mois que leur œuvre est sur la blockchain et que ça ne se vend pas, qui n'ont pas de stratégie de communication et de prix. Et là, c'est une offre, je crois, qui est pour l'instant à 140 euros. Et en fait, je les accompagne pendant 2h30 sur ces stratégies, etc. Donc, c'est une stratégie qu'on crée ensemble sur 3 mois. Et voilà, donc ça ressemblera plus à un workshop en one-on-one. Quoi.
Génial.
J'ai remarqué que ça aide vraiment les personnes à se lancer, parce que je pense que ce qui gêne le plus, et c'est ce que je disais avant, c'est que y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'univers des NFT, mais qui n'arrivent pas à s'y lancer parce que ça leur paraît tellement complexe et qui ont vraiment besoin de cet accompagnement. Et il y a vraiment des artistes que j'ai aidés et qui marchent très bien maintenant.
Bravo.
Donc, je suis assez contente. Je suis en train d'écrire, en fait, je n'ai pas fini, un petit guide NFT pour que les artistes et toutes les personnes qui souhaitent en fait commencer dans ce milieu puissent être guidées, mais d'une façon très, très simple, très simplifiée.
Génial. Est-ce que tu serais d'accord pour refaire un épisode de podcast, mais cette fois-ci dédié aux artistes, comme ça, 20 minutes pour expliquer comment mettre ses premières œuvres sur les plateformes.
Ouais, carrément, bien sûr.
Génial. Bon, du coup, Jessica, merci beaucoup pour cette interview très concrète. Je pense que je vais pas être la seule à passer au NFT. Enfin, moi, j'y suis déjà passée, mais je pense que du coup, grâce à toi, il y a d'autres personnes qui vont s'y intéresser de plus près. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Pour retrouver Jessica sur Instagram, c'est Jessica Swedy. Elle a aussi créé la plateforme Art From Future que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Et comme elle l'a dit, pour la retrouver sur Twitter, c'est Jessie Jane. Toutes les informations sont dans la description. Voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté. Vous trouverez toutes les notes de l'émission sur le site numar.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn et Instagram. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous avez aimé et que vous souhaitez nous aider, nous serions très contents que vous nous laissiez une note et un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Cela nous permettra d'avoir plus de visibilité. Merci encore et à très bientôt pour un prochain épisode.